Il est 4h30 en temps universel, 7h30 à Antananarive. Et le retour de l'actualité africaine, c'est avec vous Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Des messages particulièrement remarqués à Madagascar pour débuter votre journal.
Des messages délivrés à l'occasion des fêtes par des religieux, par les deux églises les plus importantes de la grande île, qui ont vertement taclé les dirigeants, mais le gouvernement se défend, vous l'entendrez. Les tensions post-électorales qui durent au Mozambique et qui forcent de nombreux Mozambicains à prendre la fuite, quand d'autres restent quant à eux dans un climat de terreur. La politique comorienne ensuite avec la campagne qui se poursuit en amont des législatives du 12 janvier. Cette polémique au Tchad, les prestataires de services de l'État dénoncent des impayés. Et puis au Tchad, justement, cette fête en couleur, le festival Dari qui se refermera ce soir. L'actu sport également au programme, bien sûr, comme tous les jours, soyez les bienvenus. La première dénonce l'hypocrisie de la classe dirigeante. La seconde l'accuse indirectement de s'accrocher au pouvoir. À Madagascar, les deux églises les plus influentes ont donc lancé un appel ayant particulièrement résonné en cette période de fête qui se referme. Mais un message qui a quelque peu provoqué le courroux de cette classe dirigeante, justement, dans un climat post-électoral toujours tendu, à l'heure où l'opposition et la société civile interrogent la sincérité du scrutin municipal qui s'est tenu le 11 décembre. À Antananarive, Pauline Le Troquier.
Le message publié le 24 décembre a suffi à bousculer la trêve habituelle des fêtes. Que Noël ne soit pas comme celui d'Hérode, celui d'une personne aveuglée, un fou au pouvoir, lance le président de l'église protestante. En s'appuyant sur la figure du roi de Judée, il demande aux dirigeants de ne pas tomber dans les pratiques tyranniques bien connues de ce souverain. Des mots assimilés à des attaques déguisées par la présidence de la République. Sollicité par RFI, Louvrano Roumar, sa porte-parole, estime que l'Église doit rassembler et non alimenter la haine. Quelques jours plus tard, l'Église catholique, choyée par le président Dzrazuel, a elle aussi délivré un message alarmiste. Crier « Alléluia » et « Amen » à l'Église ne vaut rien si nous continuons à faire le mal, assure le cardinal Désiré de Sarrazane, une référence à la persistance de mauvaises pratiques au sein de l'administration. Ces messages ne cessent d'être relayés et avec une opposition affaiblie et un parti présidentiel hégémonique, l'influence de l'Église est considérée comme l'un des derniers remparts de la population malagasse qui continue de subir la hausse du coût de la vie ainsi que les coupures d'eau et d'électricité. Pauline Troquier, Antananarive, RFI.
Un religieux à la voix qui porte à Madagascar, justement. Vous l'avez peut-être entendu, le Père Pedro est notre invité ce matin sur RFI. Lui qui lutte contre la pauvreté sur la grande île depuis des décennies. Madagascar et sa biodiversité unique au monde également, mais menacée par l'agriculture. Kpenaï Traoré nous parlera de cet autre sujet dans son émission Un jour au village à 13h10 en temps universel. Elle recevra Sarobidi Rakotonarive, chercheur de l'université d'Antananarive. Tout quitter et fuir ou bien rester et faire face aux violences post-électorales. Voilà le dilemme qui se pose aujourd'hui pour des milliers de Mozambicains dans un environnement politique qui reste très tendu. Depuis les élections contestées du 9 octobre, près de 300 personnes ont été tuées dans des manifestations. Certains sont aujourd'hui coincés sur place dans un climat d'angoisse, mais ils sont donc nombreux déjà à avoir choisi la fuite vers le Malawi ou vers l'Eswatini notamment. Christina Okello, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, lance l'alerte.
Parmi les personnes en fuite figurent des réfugiés et des demandeurs d'asile vivant au Mozambique, comme Alexander Daichasaba. Âgé de 23 ans, ce jeune Tanzanien s'était installé à Maputo dans l'espoir d'un avenir meilleur. Mais face à la montée des violences, il a dû fermer son commerce.
L'endroit n'était plus sûr. Des inconnus venaient et demandaient « Vous êtes derrière qui ?» Si vous répondiez que vous souteniez Daniel Chapeau, il répliquait « Ils vont vous brûler, ils détestent ceux qui le soutiennent. » Et effectivement, une fois entre leurs mains, ils vous brûlaient ou ils détruisaient vos affaires. Nous avons tous dû abandonner nos biens.
Alexander a depuis quitté la capitale mozambicaine et se dirige vers la frontière avec le Malawi où de centaines de personnes ont déjà trouvé refuge. Pendant ce temps, certains choisissent de rester, comme cet habitant mozambicain qui appelle les dirigeants à surmonter les différends politiques.
J'espère que le gouvernement et les partis pourront engager un dialogue et résoudre les problèmes du pays.
Daniel Chapo, déclaré vainqueur de l'élection présidentielle par le Conseil constitutionnel, doit être investi le 15 janvier prochain, une échéance qui pourrait aggraver les tensions. Dans un communiqué publié au jour de l'an, la communauté de développement de l'Afrique australe a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et engager un dialogue constructif pour éviter une nouvelle escalade de violence.
Les explications de Christina Okello. Un nouveau fait d'armes pour les rebelles du M23 dans l'est de la RDC. Au Nord Kivu, ils se sont emparés au terme d'intenses combats de la ville de Katale sur le territoire de Massissi. Une localité qui est le dernier verrou vers la ville de Massissi, justement, dont le territoire porte le nom. Après un rapprochement affiché entre l'Éthiopie et la Somalie, l'Éthiopie annonce qu'elle souhaite collaborer avec la nouvelle force de l'Union africaine qui a été mise en place au début de l'année en Somalie pour lutter contre les Chebabs. Demande exprimée par Addis Abeba, Mogadiscio dit à présent vouloir l'examiner. Les Comores, à l'approche de leurs élections législatives prévues le 12 janvier sur place, la campagne se poursuit bien sûr. Mais convainc-elle les Comoriens? Quelles sont leurs attentes en amont de ce scrutin? Qu'attendent-ils de la prochaine législature? Eh bien à Moroni, on retrouve Abdallah Zembaba.
S'il y a une constance dans les attentes des Comoriens, c'est le changement dans la manière de gouverner et de légiférer. Pour Tamim Ibrahim, entrepreneur, le rôle du député doit avant tout être pleinement assumé.
Qu'il travaille sur des lois qui vont dans le sens de l'amélioration de la qualité de vie du Comorien, qu'il fasse un vrai contrôle de l'action du gouvernement, ce qu'on a très rarement vu. Après, je me permets d'être un peu pessimiste quand on entend les discours des uns et des autres, parce qu'on a l'impression que c'est des personnes qui s'attendent à un mandat exécutif. Ils sont en train de promettre monts et merveilles à la population.
Pour Nassur Ali Hamadi, militant de la société civile, les priorités des députés doivent inclure des actions concrètes pour des secteurs clés.
J'ai vu que l'éducation représente 3% des dépenses de l'État. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire sur l'éducation. Nous attendons plus de nos élus de mettre en place les mécanismes nécessaires pour contrôler l'utilisation des biens de l'État pour lutter contre la corruption, parce que c'est une réalité.
À 6 jours de la fin de la campagne du premier tour du 12 janvier, la campagne reste timide. Les attentes, souvent non tenues, semblent être un frein pour une population largement désintéressée. Abdallah Zembaba Moroni, RFI.
Le ministère des Finances et du Budget du Tchad paye-t-il bien toutes ses factures? Certains opérateurs économiques qui fournissent des prestations de services à l'État assurent en tout cas que non. On parle ici de dettes intérieures, c'est un peu technique, mais en somme, les entreprises qui travaillent pour l'État dénoncent leur non-paiement. Des accusations que conteste pourtant le gouvernement tchadien. N'Djamena, les précisions d'Olivier Monodi.
Les opérateurs économiques tchadiens veulent être payés. Ils assurent avoir financé à leurs frais la construction des établissements scolaires, sanitaires et administratifs, des fournitures de bureaux et autres services au gouvernement tchadien. Des services qu'ils estiment à plus de 1 000 milliards de francs CFA sur une période de 10 ans. Ouardougou Djimi Chété est le président du syndicat des opérateurs économiques.
C'est des choses qui existent sur le terrain, par exemple la construction des bâtiments et les réfections dans les provinces. Ce sont de l'argent qui ont été mobilisés par les opérateurs économiques. La dette qu'il a auditée en 2018, dans les 2 000 milliards, il a pu auditer celui-même qui a dit 800 milliards. Les 1 200 milliards restent à vérifier et valider. Si aujourd'hui, il n'y a pas de dette à payer, il n'a qu'à faire face à nous.
Faux, rétorque le ministre des Finances qui assure que toutes les dettes intérieures ont été réglées. Tahir Amit Nguilin, ministre d'État, ministre des Finances, l'a répété lors de la présentation de la loi des finances 2025 au conseiller de transition.
Quand il y a une liquidation, on dépose le rapport général de la liquidation. La responsabilité aussi, c'est de protéger les ressources de l'État. Ils ont des factures, des chefs de quelques opposants, je ne sais pas. Nous ne sommes pas convaincus.
Le syndicat des opérateurs économiques demande aujourd'hui un dialogue direct avec le ministre des Finances pour situer les responsabilités. Il en appelle également au président Mohamed Tebi pour un dénouement rapide de cette crise. Olivier Monodi, N'Djamena, RFI.
Après un mois de garde à vue au Niger, Moussa Tchangari, figure de la société civile, est désormais en prison. Il a été écroué hier après avoir été présenté devant le tribunal de grande instance de Niamey. Le Niger, où la junte apporte des précisions sur la fermeture des services consulaires américains. Fermeture annoncée le 31 décembre par un communiqué de l'ambassade des États-Unis au Niger qui évoquait une fermeture temporaire sans préciser de durée et sans apporter d'explication. Mais dans un communiqué, les autorités nigériennes ont démenti tout conflit diplomatique ici. Elles assurent que cette décision a été prise par les États-Unis et qu'il s'agit d'une sanction disciplinaire ayant conduit au rapatriement précipité de la personne qui était chargée des affaires consulaires, qui sera prochainement remplacée. Au Tchad, on y retourne pour cet événement qui est haut en couleur, le festival Dari qui se tient à N'Djamena. Il se refermera ce soir la 6e édition. Ce point de rencontre entre toutes les cultures tchadiennes, des chants, des danses, des traditions culinaires, tout ce qui fait en somme la particularité des provinces tchadiennes est représenté ici. Reportage Victor Moria.
Chaque jour depuis le 21 décembre, deux des 23 provinces du pays sont mises à l'honneur au sein du village d'Ari. Aujourd'hui, c'est au tour du logo occidental d'où vient David Ngas, artiste et musicien.
Nous avons présenté trois danses. La danse populaire et de réjouissance appelée Dala, Baoundaï et puis le Ndo qui s'exécute après les récoltes. Et nous avons présenté aussi nos produits agriculturels locaux et des ingrédients pour les sauces aussi traditionnelles.
Le festival d'Ari a été créé en 2018 avec pour objectif de connecter les Tchadiens entre eux. Dans ce pays d'1 200 000 km², se connaître et se rencontrer n'est pas une évidence. Rodrigue et Ursel viennent de N'Djamena et Mundu.
Ça nous permet de découvrir qu'est-ce qu'il y a dans l'autre région dont on n'a pas eu l'occasion d'aller pour découvrir sur place. Ces expositions nous permettent de découvrir qu'est-ce que le mandoul, qu'est-ce que le wadaï, le mayokebi, qu'est-ce qui se trouve là-bas.
Ça nous permet de découvrir des choses qu'on ignorait avant, donc c'est vraiment un plus pour nous.
Le festival d'Ari se clôture samedi soir avec les provinces de N'Djamena et Fort-Lamy. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Une autre fête pour ce week-end qui débute en Afrique du Sud. La ville du Cap se prépare ce samedi pour son carnaval de début d'année, le Twide Nouveyaar, soit le second nouvel an, qui d'habitude célébrait le 2 janvier, cet héritage du temps de l'esclavage, puisqu'il s'agissait à l'époque du seul jour de repos pour les esclaves. Mais la fête a été déplacée cette année au 4 janvier, afin de permettre aux communautés musulmanes de se concentrer sur la prière du vendredi. Et puis, cette histoire pour le moins insolite en Zambie, un policier ivre qui vole les clés de son collègue le soir du Nouvel An pour libérer des détenus et leur assurer qu'ils étaient libres. 13 détenus, aujourd'hui fugitifs selon la police zambienne qui nous rapporte ces événements. Le policier concerné a quant à lui été arrêté après ce coup d'éclat.
Pour écouter ce journal, rendez-vous sur